suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. À maintes reprises ces dernières années, nous nous sommes scandalisés, à juste titre, qu'une religion, l'islam, ou plutôt certains de ses adeptes, réclament l'interdiction ou la censure d'œuvres de l'esprit. Se drapant dans la posture de citoyens d'une république laïque, fiers de leur héritage des Lumières, certains voulaient donner l'impression qu'il s'agissait pour nous en France d'une très vieille histoire réglée depuis longtemps, la Révolution française ou, disons, la loi de 1905. Ils avaient la mémoire courte, très courte, et surtout ne se donnaient pas les moyens d'analyser les arguments avancés par ces dévots intolérants, et notamment la manière que ces derniers avaient d'évoquer leur sensibilité religieuse blessée. Pour le comprendre, il fallait faire retour sur d'autres épisodes de censure ou de tentatives de censure, ceux que les dévots catholiques, cette fois, avaient provoqué contre des films, en particulier depuis le début des années 60. L'ethnologue Jeanne Favré-Saada a mené l'enquête sur ces attaques chrétiennes contre le cinéma. Jeanne Favré-Saada, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez aux éditions Fayard, ces jours-ci, dans la collection Histoire de la pensée, les sensibilités religieuses blessées, christianisme, blasphème et cinéma. On va donc s'intéresser avec vous en particulier à quatre affaires qui se sont déroulées entre 1965 et 1988. Et puis, dans la deuxième partie de la suite dans les idées, puisque dorénavant l'émission comporte une deuxième partie sous forme d'un dialogue entre une chercheuse en sciences sociales et puis quelqu'un venu du domaine de la culture, nous aborderons une autre affaire qui concernait cette fois l'art contemporain, une exposition intitulée « Présumé innocent » et qui a eu lieu en l'an 2000 à Bordeaux, au CAPC de Bordeaux, et on l'abordera avec l'une des commissaires de cette exposition, qui est aussi l'invitée de la suite dans les idées aujourd'hui, Stéphanie Moidon. Mais commençons par ces quatre affaires qui vous intéressent, Jeanne Favré-Saada. D'abord, je voulais préciser que votre livre, qui est le livre d'une chercheuse, d'une ethnologue, se lit comme un roman. On tourne les pages à une vitesse incroyable. Vous nous racontez des histoires qui sont pleines de suspense, avec des arguments qui se déploient en tous sens. Une bonne partie de votre livre, presque la moitié, concerne la première de ces affaires, chronologiquement parlant, un film, le deuxième film de Jacques Rivette, une adaptation de Diderot, La Religieuse, qui a connu un sort assez incroyable parce que on a probablement soit jamais su ça, soit oublié à quel point faire un film au début des années 60 était compliqué quand on voulait en particulier s'attacher à certains sujets. Compliqué parce qu'il y avait une censure a priori, une censure préalable, c'est-à-dire qu'il s'agissait de montrer à des organismes un scénario avant même de pouvoir avoir l'autorisation d'appuyer sur le bouton des caméras et de commencer le tournage. Or, cette affaire de La Religieuse de Diderot est exemplaire, à bien des égards, d'un retournement à propos de la liberté d'expression. Et je crois que ce qu'il y a de, j'ai essayé de le souligner en introduction, de plus important dans votre livre, c'est que votre livre vient casser cette image d'une République française dans laquelle la liberté d'expression triompherait depuis au moins le 19e siècle et il n'en va pas du tout ainsi à l'époque gaulliste, Jeanne Favré-Saada.
Oui, c'est-à-dire que dans cette affaire, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. C'est que dans la commission de censure d'État, il y avait depuis 1961, donc ça s'est passé entre 1963 et 1966, un religieux unique, appelé là comme expert parce qu'il était censé être un éducateur de la jeunesse, bien qu'il n'ait plus fait ça depuis une trentaine d'années, un abbé Pian, qui a été scandalisé par le dossier contre lequel il a voté d'ailleurs à la commission de pré-censure, et qui, à partir du dossier qu'il a emmené, il a monté une affaire cléricale qui a fini par concerner jusqu'au plus haut personnage de l'Église, qui était Monseigneur Feltin, qui était l'archevêque de Paris, et qui a été voir le chef de l'État, le général de Gaulle, avant que le film n'ait été tourné, n'ait eu même son admission pour pouvoir être tourné. Il a été le voir et il a exigé de lui que ce film ne voit jamais le jour, un film non tourné. dont il n'y avait qu'un scénario, ne soit jamais tourné, sinon à l'élection suivante, qui était 3 mois plus tard, à la première élection présidentielle au suffrage universel
du président.
Voilà, les catholiques voteraient contre le général.
Et c'est cet argument électoral qui permet de comprendre d'ailleurs comment le général de Gaulle a accepté cette
la chose
menace.
Absolument stupéfiante est que le général y a cru, parce que déjà à l'époque, les politologues disaient « mais voyons, il n'y a plus de vote catholique ».
Et par ailleurs, il faut préciser que tout catholique qu'il était, le général de Gaulle n'avait pas de sympathie particulière pour cet archevêque, parce que qui était vichiste.
Il le haïssait parce qu'il était vichiste et parce que non épuré par Vichy et devenu archevêque de Paris, il avait fait une grande célébration à Notre-Dame du maréchal Pétain, d'où les représentants du gouvernement avaient dû partir.
Donc voilà, on est en France sous la Ve République au milieu des années 60 avec un président de la République qui, pour des raisons électorales, cède à la pression du plus haut représentant de l'Église catholique en France à propos d'un film qui n'existe pas encore, dont seul le projet est matérialisé dans un scénario. Et il faut préciser aussi que ce projet lui-même a été édulcoré par prudence, par Rivette, le réalisateur, aussi par ses producteurs, qui avaient pris soin d'entrer en relation avec des gens qui connaissaient ou pouvaient anticiper les réactions de l'Église catholique. Donc il y avait une forme d'autocensure de la part de l'artiste et de ses producteurs qui avaient précédé même ce moment.
Non, mais la chose la plus drôle est que Georges de Beauregard, le producteur de Rivette, avait sorti un film qui était Léon Morin, prêtre, qui avait eu un grand succès auprès des seuls catholiques. Donc il était réputé comme capable de sortir de grands films catholiques. Néanmoins, il a eu l'épiscopat contre lui et les spécialistes catholiques du cinéma, l'office du cinéma, etc., contre lui à propos de ce film, mais ils ne lui ont pas dit. Ils ont fait semblant de vouloir coopérer avec lui, tout en étant absolument hostile.
Ce que vous montrez bien, Jeanne Fabré-Saada, c'est en quoi cette affaire est exemplaire d'une nouvelle situation, donc de nouveaux arguments utilisés par les catholiques à propos de censure. Nouvelle situation dans laquelle la faiblesse du catholicisme dans la France de l'époque ne l'autorise plus à utiliser certains arguments, et en particulier la notion plus classique de blasphème. Et il s'agit donc de trouver d'autres moyens de contester la possibilité même pour des œuvres d'exister. Et c'est ça sur lequel vous insistez, sur les 4 dossiers qui vous intéressent, et qui est déterminant parce que ça permet de comprendre la naissance, au fond, d'un mode d'argumentation des religions à propos du régime de la liberté d'expression dans lequel nous nous trouvons encore très largement aujourd'hui.
Le blasphème, du point de vue religieux, quelles que soient les religions, ça consiste à insulter Dieu, c'est-à-dire à traiter Dieu d'une façon que ses fidèles considèrent comme insultante. On ne peut plus se plaindre, dans la France de 1965, que quelqu'un ait fait un film qui insulte Dieu. Donc on va dire, il nous blesse, nous, les fidèles. Or, cet abbé Pian, par exemple, était un des fondateurs d'une des grandes associations antiracistes. Et tout d'un coup, on voit les catholiques, précédemment majorité arrogante dans la culture française, devenir une minorité souffrante qui demande l'égalité pour elle. C'est-à-dire qu'on respecte sa sensibilité qui risquait d'être blessée. Et après cette affaire, toutes les accusations religieuses contre des films se font au nom des sensibilités religieuses blessées. Mais dans leurs réunions internes, dans les correspondances entre les religieux, ils parlent toujours de blasphème et pas d'autre chose.
Ils savent simplement qu'ils ne peuvent plus utiliser le mot ou le concept de blasphème dans l'espace
parce
public.
Parce que ça n'a pas de sens. Parce que Dieu est devenu minoritaire. Évidemment, tout le monde insulte Dieu, en particulier en n'en tenant pas compte, en faisant comme s'il n'existait pas. Donc, toute l'existence moderne est devenue blasphématoire. Pourquoi ce film-là particulièrement, ou ce roman le serait plus qu'un autre? Donc on ne peut plus employer ce terme. Mais par contre, on peut piquer une production culturelle, particulièrement celle du cinéma, qui sont spécialement fragiles, parce qu'on peut casser les salles, parce qu'on peut empêcher le public d'y aller, et donc qu'elle ne peut pas, le box-office ne peut pas gagner d'argent. C'est le produit culturel le plus fragile que pendant 30 ans, on va régulièrement attaqué.
Alors d'ailleurs, ce n'est pas propre à la France, vous vous intéressez à d'autres contextes dans d'autres pays. C'est le cinéma, mais c'est aussi précédemment la télévision qui, parce qu'elle est extraordinairement puissante, encore plus que le cinéma, va en Grande-Bretagne se trouver l'objet d'attaques d'une activiste dont le nom reste connu encore aujourd'hui, Mary Whitehouse, et qui est devenue une forme de caricature, d'ailleurs moquée par des générations d'artistes, mais qui néanmoins va réussir par extraordinaire à la résurrection, on peut dire comme ça, d'un crime qui a été tombé en déshérence dans le droit britannique, de blasphème, qui emporte des peines extraordinairement sévères. Et la justice britannique va sortir de l'oubli ce crime.
Oui, parce que la Grande-Bretagne, comme chacun sait, n'est pas un pays laïque. Et la reine d'Angleterre, enfin la reine ou le roi, enfin le souverain d'Angleterre est gouverneur de l'Église anglicane, ce qui ne veut strictement rien dire. Elle n'intervient jamais dans la...
C'est purement formel.
C'est purement formel, mais elle ne peut pas admettre que l'anglicanisme comme religion soit attaqué, en principe, hein, soit attaqué publiquement. Ceci dit, depuis le 19e siècle, on l'avait beaucoup fait.
Sans être inquiété.
Sans jamais être inquiété. Et évidemment, après les années 60... Les blagues anti-religieuses étaient partout, à la télévision, à la radio, dans les romans. Tel romancier célèbre disait que quand il voyait sa femme nue, son érection lui faisait penser à l'ascension du Christ. C'est dans des romans absolument célèbres et vendus sans qu'ils aient jamais aucun problème. Et c'est comme ça que à partir du moment où en 1977, je crois, un poème gay d'un artiste homosexuel sur la vie sexuelle du Christ, mais d'un
poète connu, reconnu.
D'un poète très reconnu et qui en plus en parlait avec une grande exaltation. Simplement, c'était le centurion qui l'avait ressuscité de ses baisers, etc., d'avoir trafiqué son sexe comme il convenait pour qu'il se remette à vivre. Bon. Et donc, c'est ce poème sur l'amour qui ose dire son nom, en écho à une affaire du 19e siècle où Lord Byron avait été accusé pour un poème qui lui avait été adressé sur l'amour qui n'ose pas dire son nom. C'est ce petit poème d'une revue que personne ne connaissait.
Gay News.
Gay News, qui a été condamné juste au moment où les Monty Python étaient en train de terminer le scénario de leur film sur les origines du christianisme. Et donc toute la préparation de ce film a été dominée par la question de savoir comment ne pas tomber sous le coup de la loi sur le blasphème.
Alors eux aussi ont été très prudents. D'abord, c'est des gens qui avaient une éducation très très pointue et ils ont été très prudents en prenant contact, là encore, avec des chrétiens pour s'assurer que leur écriture ne tomberait pas sous le coup, parce qu'ils avaient été mobilisés en
faveur. Mais ça ne suffit jamais, vous savez,
d'autres.
On peut toujours le faire. Mais on ne peut jamais savoir. Beauregard l'avait aussi beaucoup fait.
Non, mais c'est frappant que ces artistes acceptent déjà de ces mécanismes d'autocensure.
Bien sûr.
Parce qu'ils sont contraints aussi, d'autant plus dans le cinéma, par un système économique. C'est-à-dire qu'il faut bien trouver des gens qui vont financer le film. Ça coûte assez cher à produire.
Mais eux, ils ne se sont pas autocensurés. Ils ont choisi que le film porterait non pas sur le Christ, mais sur la vie au temps du Christ et comment le surgissement de ce nouveau prophète faisait susciter un lot de crédules imbéciles. Et donc le film se moque des bigots qui suivent le Christ et pas du tout du Christ.
Alors, ironie de l'histoire, d'ailleurs, le film sera financé par George Harrison, qui, avec l'argent qu'il a gagné avec son tube My Sweet Lord.
Oui.
Mais, donc ça, en fait, cette histoire est proprement incroyable parce qu'on voit les attaques contre le film des Monty Python prendre la même forme que les attaques que Rivette avait dû subir.
Mais parce qu'on pense en France que le catholicisme est une religion à part qui ne peut pas se mélanger avec les protestantismes, soit l'anglicanisme, soit ce qui se fait aux États-Unis. En fait, les dévots sont les mêmes partout, sauf que les lois de chaque pays et les théories du blasphème et leurs institutions leur donnent d'autres modes d'action. Mais ils ont exactement le même propos, qui est d'empêcher une œuvre d'exister par tous les moyens possible.
Alors ça va d'une conversation privée du plus haut responsable d'une église avec le chef de l'État jusqu'à la mise à feu d'une salle de cinéma. C'est-à-dire que on a des registres d'action extrêmement larges. Alors je dois dire quand même que ce qu'on découvre du régime de la censure en France dans les années 60 en fait le pays le moins démocratique qui soit.
J'ai été très étonnée de la violence avec laquelle le film de Godard a été pratiquement empêché de sortir.
Alors, Je vous salue Marie, un film de
Vous salue Marie
des années 80, du milieu des années 80.
Oui, c'est ça, 85, sous la gauche mitterrandienne. Et ensuite, pour La dernière tentation du Christ, 3 ans plus tard, il y a eu ces manifestations terribles, dont celle qui a fait un blessé à vie
à Saint-Michel.
Au cinéma Saint-Michel. Et j'ai questionné le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui est un ancien camarade de jeunesse, qui n'a jamais répondu au mail que je lui ai écrit. Il m'a dit « Oui, je te répondrai », puis je n'ai jamais eu aucune réponse.
Qui est-ce ?
Pierre Jox, le merveilleux Pierre Jox, que j'avais rencontré récemment, et donc je m'étais dit « Il va me répondre, parce qu'il est sans doute pour rien dans le fait qu'il y a eu cette violence ». Et il ne m'a jamais répondu, ce qui m'a quand même fait penser qu'il avait peut-être reçu des ordres de ne pas faire de clash avec des catholiques.
Alors ce film de Martin Scorsese, qui a eu des difficultés considérables de financement aux États-Unis avant même qu'il soit envisagé que le film puisse être en partie financé en France, mais cela suscitera des pressions politiques pour que le film ne le soit pas, alors que Jack Lang avait proposé une initiative en ce sens-là.
Voilà, il avait été question qu'il y ait une coproduction européenne avec un crédit de Jack Lang. Et Jack Lang s'est comporté dans cette affaire comme un bleu, c'est-à-dire il a cru qu'il avait le pouvoir, qu'il était ministre et qu'il avait tous les droits. Et donc il a proposé, dans un premier temps, un crédit dont il était le seul gestionnaire, mais sans se rendre compte que c'était de l'argent public et qu'il ne pouvait pas en faire ce que lui avait envie qu'on en fasse. Donc quand c'est arrivé aux oreilles des responsables de l'Église, et en particulier de Mgr Lustiger, cardinal archevêque de Paris.
Qui avait remplacé Felletin. Enfin.
Qui avait remplacé Felletin. Il a suffi d'un coup de fil à l'Élysée pour que ce soit terminé. À ce moment-là, on s'est aperçu que Lang avait aussi mouillé le CNC, et je ne sais plus, les télévisions, pour passer ce film. Et il ne s'est pas aperçu que soutenir un film dont une certaine catégorie des Français ne veulent absolument pas. On peut le faire, mais c'est un acte politique et alors il faut le conduire jusqu'au bout, conduire la bataille jusqu'au bout. Évidemment, il n'a pas pu le faire. Il a reçu l'ordre de Mitterrand de ne pas financer.
Avant ça, La dernière tentation du Christ, donc, je rappelle que c'est une adaptation d'un roman de Kazantzakis des années 50. C'était d'abord un film américain, d'ailleurs un film commandé par les studios pour redorer leur blason artistique, en quelque sorte, à Scorsese, qui était un cinéaste qui avait de plus en plus de mal à financer ses projets. Et aux États-Unis, on assiste à une mobilisation, là encore, avant même que le tournage ait commencé, qui prend certes des formes particulières du fait de la situation américaine, mais qui ressemble quand même à beaucoup d'égards à ce qui s'était passé en Grande-Bretagne avec le film des Monty Python ou en France avec Rivette.
Bien sûr. C'est-à-dire que ça s'est fait en deux étapes. D'abord, en fait, c'était deux studios successivement qui ont voulu avoir Scorsese parmi leurs cinéastes parce que c'était un des plus brillants de sa génération et qui lui ont fait cadeau d'un film pas cher. Mais le premier, la Paramount, s'est dégonflé proprement devant des campagnes de lettres, de fax, etc., faites par deux associations de dévots protestants qui sont montés en grade à cette occasion et qui sont devenus des personnages nationaux. C'est-à-dire la presse nationale s'est mise à parler d'eux à partir de ce moment-là. Et ils ont réussi à ce que la Paramount se dégonfle et dise « nous ne le ferons pas ».
En faisant pression sur les sociétés qui possédaient la Paramount, c'est-à-dire des pétroliers fort éloignés du cinéma, qui ne se mêlaient pas trop de ce qui se passait
mais
concrètement.
Mais qui n'ont pas donné, c'est pas eux qui ont donné l'ordre, mais enfin ça a joué.
Alors, on s'aperçoit qu'on a les mêmes choses. Vous vous intéressez donc à ces quatre affaires, la religieuse, le film des Monty Python, celui de Jean-Luc Godard et puis celui de Martin Scorsese. Et vous vous arrêtez en 1988, précisément au moment où ce cinéma du boulevard Saint-Michel à Paris est attaqué, violemment attaqué et incendié par des intégristes catholiques, ces militants dévots catholiques. Deux jours plus tard, commence une affaire qui va être un tournant et que vous n'abordez qu'en conclusion brièvement de votre livre, puisque c'est la parution en Grande-Bretagne des versets sataniques de Salman Rushdie, un livre qui va être attaqué par des dévots de l'islam, cette fois en Grande-Bretagne et puis dans d'autres pays, sans que l'affaire en Grande-Bretagne d'ailleurs ne prenne véritablement au début. C'est par l'étranger que ça va démarrer. Et puis le 14 février 1989, cette fameuse fatwa tombe. Et là, on bascule dans une autre époque où seront d'abord et avant tout médiatisées les attaques contre l'art, contre les œuvres artistiques des dévots musulmans. Mais ce qui est frappant, c'est qu'on trouve exactement la rhétorique que vous avez mis à jour. Au fond, ces catholiques ont préparé le terrain s'agissant de la censure des œuvres de l'esprit, Jeanne Favre-Sarre.
Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, le pape, par exemple, à propos de Charlie Hebdo, les autorités chrétiennes sont toujours d'accord avec les musulmans quand ils se plaignent de leur sensibilité religieuse blessée. Naturellement, quand il y a des morts, ils disent « Ah non, les morts, c'est pas bien, il en faut pas, etc. Les violences, il en faut pas. » Mais ils essayent de faire croire qu'il y aurait une espèce d'international des croyants, de ceux qui croient en quelque chose. Enfin, qui croient en un Dieu tout-puissant qui nous a créés et qui nous oblige à vivre comme ci, comme ça, etc. Enfin, à être moraux, comme le disent les religions, à conformer notre sexualité, etc. Opposé à un monde daté, ce qui n'est pas du tout le cas. Le monde est rempli de gens qui ont les opinions les plus diverses. Les uns ne croyant pas que Dieu existe, mais priant. Enfin, j'ai lu quantité d'études sur l'état des pratiques et des croyances de nos concitoyens.
Il faut dire que vous avez consacré votre carrière entière de chercheuse à ces questions de la croyance. Je ne l'ai pas précisé, vous étiez directrice d'études à l'École pratique des hautes études et vous avez travaillé sur la religion et sur les croyances de manière générale. Donc là on bascule dans une autre époque à partir de 1988, ce qui n'empêche pas les affaires qui concernent les catholiques de continuer à prospérer. Simplement, elles sont un peu à l'ombre, je dirais, des affaires plus spectaculaires qui concernent désormais l'islam.
Non, par exemple,
on en parlera à propos d'une autre affaire dans la deuxième partie de l'émission avec Stéphanie Moidon. Mais je voudrais, avant ça, vous nous expliquiez néanmoins ce qui change dans cette nouvelle époque qui implique l'islam. Quelle différence il y a, malgré tout, entre les musulmans dévots et puis ces catholiques dévots?
Il y a que les chrétiens dévots ne peuvent compter dans leur société et dans les autres sociétés chrétiennes, où il y a une majorité de supposés chrétiens, que sur un désir très mou de défendre l'honneur de Dieu, enfin ces choses à quoi ils tiennent par-dessus tout. Ils n'ont pas de société autour d'eux, ils n'ont pas de mouvement d'opinion.
Les sociétés sont très sécularisées en fait.
Voilà, c'est ça. Et surtout, le christianisme lui-même est très diversifié. C'est-à-dire que les protestants, par exemple, les calvinistes, pensent que les réformés pensent que les cinéastes ont absolument le droit d'interpréter la vie du Christ et l'incarnation de Dieu comme ils le pensent.
D'ailleurs, si on reprend l'affaire de la religieuse, on s'aperçoit que des organes de presse très très liés aux religions, comme La Croix, comme Télérama à l'époque, etc., soutiennent le projet
de
Godard ou de Rivette, même à l'époque.
Oui, enfin, c'est
un peu moins Rivette.
Rivette, non. Non, La Croix, justement, était spécialement tortueuse. Pendant un temps, La Croix a eu un service culturel qui a été lancé par des gens que vous connaissez bien, comme Jean Lebrun, qui est à France Culture.
Qui est à France Inter maintenant, mais qui a longtemps été à France Culture.
Ah oui, c'est ça, pardon. Et qui donc était à l'époque un chrétien progressiste et qui officiait juste au moment où le film de Godard est sorti. Donc, ils l'ont défendu. Mais ils ont attaqué Rivette, comme ils ont attaqué ensuite La Dernière Tentation du Christ. Et quand le dernier film de Scorsese est sorti, l'hiver dernier,
et que qui a été projeté au Vatican.
Silence, oui, et que Scorsese, qui avait quand même une dent contre ce qui lui était arrivé en 1988, a été faire la première au Vatican, s'est fait applaudir par 500 jésuites et félicité par le pape. La croix et la vie, etc., la presse catholique française n'a pas dit un mot de la dernière tentation du Christ.
Merci Jeanne Favre-Saada. On élargit la conversation dans un instant avec Stéphanie Moidon à propos d'une exposition d'art contemporain qui s'est trouvée elle aussi prise sous le feu de critiques venues du même monde, au fond, de ces dévots chrétiens dont vous avez parlé à propos de quatre films dans ce livre, Les sensibilités religieuses blessées. Mais tout de suite, on écoute un extrait de l'album de LCD Sound System qui est sorti cette semaine, Le Retour de James Murphy. Call the police.
Suite dans les idées, Sylvain Bourmont.
La suite dans les idées, deuxième partie. Dans cette suite dans les idées, on parle de liberté d'expression, de la manière dont elle est ou tente d'être restreinte par des attaques issues des religions. Les chrétiens, à propos de quatre films dont on vient de parler avec Jeanne Favre-Saada, qui publie Les sensibilités religieuses blessées aux éditions Fayard. Mais ça ne concerne pas que le cinéma et ça ne s'arrête pas non plus s'agissant des chrétiens en 1988, date où commence l'affaire Rush. Ça continue dans d'autres secteurs. C'est par exemple le cas de l'art contemporain avec une exposition qui s'était appelée « Présumé innocent » et qui avait eu lieu en l'an 2000 au CAPC à Bordeaux. Stéphanie Moidon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes curatrice d'art contemporain, vous enseignez également à l'ECAL à Lausanne et vous avez été à l'époque donc l'une des commissaires de cette exposition.
Avec Marie-Laure Bernadac.
Avec Marie-Laure Bernadac, dont vous n'aviez, j'imagine, en la préparant, pas imaginé un instant qu'elle puisse susciter ce type de mobilisation, dont il faut rappeler quand même qu'elle a conduit à votre mise en examen, à vous, à votre co-commissaire et aussi au directeur des musées de Bordeaux. Peut-être vous pouvez nous rappeler projet
petite, de... Petite chronologie, et le projet initial est somme toute assez banal, c'est un projet historique qui consistait à recenser à travers toutes les pratiques et toutes les géographies ce qui se produisait à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y avait à nouveau une préoccupation autour de la figure de l'enfance, figure de l'adolescence aussi, et qu'un certain nombre d'artistes, comme cycliquement, revenaient sur cette question-là, non pas sur l'origine de l'art, mais plutôt sur le devenir enfant, sur les pratiques de jeu, sur le rapport à la famille, à la violence aussi. Donc des questions de représentation. Donc nous avons fait un travail classique, d'historienne, de scientifique, de commissaire d'exposition, qui a duré 3 ans. Très peu de temps avant l'ouverture de l'exposition, nous avons été alertés par la mairie, Alain Juppé et ses adjoints, que le titre était devenu problématique pour eux. Ils nous demandaient de retirer le titre avec lequel nous travaillons depuis déjà plusieurs années, présumé innocent. Et un petit comité d'éthique s'organise, mais vraiment quelques mois avant l'inauguration, pour examiner des œuvres dites litigieuses. Nous avons refusé de retirer ces œuvres parce que tout le travail était déjà très engagé, les prêts, la relation avec les institutions. Il s'agissait quand même de grandes institutions, du MoMA, du Guggenheim et du Centre Pompidou. Donc on fait pas ça, qu'on n'improvise pas comme ça, voilà. Et c'est un peu dans ce climat délétère que l'exposition ouvre, avec des rumeurs dans la ville. Et puis, malgré le fait que la municipalité s'était retirée, avait refusé de venir au vernissage, de soutenir le projet, l'exposition se déroule plutôt bien avec une grande fréquentation. Et nous apprenons très peu de temps après la fin de l'exposition qu'une plainte est déposée par une association. Alors au départ, c'était pas l'association La Mouette, une association donc de protection de l'enfance qui s'est créée en 1993, je crois, ou un peu avant, au moment de la disparition d'une petite fille qui s'appelait Magali. Et association qui se dit non confessionnelle et apolitique. Alors c'est là où nous étions peu armés pour comprendre ce qu'on comprend très bien dans le livre de Jeanne Favre-Saada et qui m'aurait été utile à l'époque. Ça m'aurait permis d'abord de prendre un peu de hauteur, de ne pas rester à ma place de victime ou d'accusée, et aussi de comprendre que c'était effectivement un moment de mutation, c'est-à-dire que ces dévots étaient en train de, face à une panique morale, étaient en train de transformer l'accusation de blasphème en une attaque contre vis-à-vis des sensibilités. Voilà. C'est ce que nous ne savions pas. En fait, nous n'avions pas une vision assez distante du contexte de cette transformation. Donc la plainte est déposée, c'est un peu compliqué, je passe les méandres. La procédure a duré 11 ans, contre l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme, contre un certain nombre de réglementations. Au départ, c'est un père de famille qui dit venir voir l'exposition avec ses deux petites filles et qui tentera de faire la preuve d'un traumatisme durable, les petites filles en 3 et 5 ans, je crois. Et puis finalement, c'est donc La Mouette, cette plainte-là n'étant pas recevable, qui se portera partie civile. Nous irons comme ça 6 ans après la plainte ait été déposée. Au départ, ils demandaient la destruction des œuvres, la plupart des œuvres.
Rien que ça, ouais.
Oui, ça fait une petite connotation fâcheuse. Et la mise en accusation ne concernait pas seulement les commissaires, le directeur, mais aussi les institutions prêteuses. Donc ça concernait le MoMA, le Centre Pompidou, etc. Et beaucoup de gens quand même, beaucoup de gens importants.
Donc en fait, Jeanne Favre-Saada, on observe avec cette affaire de présumé innocent, bien qu'il s'agisse d'un autre domaine que là, exactement le même agenda et les mêmes types d'argumentation.
Dans mon livre, je montre comment en 1984, au moment des grandes manifestations pour l'école...
Les manifestations versaillaises, d'ailleurs.
Versaillaises et parisiennes.
Et parisiennes.
Comment des fidèles du catholicisme ont été tellement émerveillés de voir qu'ils pouvaient faire tomber un gouvernement qu'ils ont commencé à se mobiliser sans rien attendre de l'Église et de la hiérarchie, et parfois contre elle. Ce qui s'est passé à propos de Godard, etc., des affaires que je montre. Votre association a été créée, je crois, en 89, justement.
Ah oui.
Et en fait, c'est exactement sur le modèle de celle que j'ai montrée en Grande-Bretagne. C'est-à-dire, après ça, si on ne compte plus sur son autorité religieuse de sa propre religion, on crée des associations non confessionnelles. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas soi-même un dévot. Ça veut dire qu'on va s'associer avec tous les dévots.
Mmh.
Et dans la vôtre, c'est la sacralité de l'enfance qui a été défendue, puisqu'on ne peut plus défendre la sacralité de Dieu.
Oui, oui, c'est l'innocence de l'enfance, puisque
oui,
voilà,
dès le titre, l'innocence sacrée de
l'innocence
de l'enfance.
Sacrée de l'enfance. Or, notre projet était aussi, même s'il n'y avait pas de programme idéologique ou théorique au départ, hein, on essayait surtout de montrer toute la diversité, hein, et de rester dans la contradiction ou dans l'ambiguïté. D'où le titre, présumé innocent. Ça concerne pas seulement l'enfance, c'était une ambiguïté sur le sujet. Est-ce qu'il s'agit de l'artiste? Est-ce qu'il s'agit du spectateur? Est-ce qu'il s'agit de la vision qu'on porte sur l'enfance? Il se trouve qu'on est dans un moment de transition compliqué aussi. C'est après Dutroux, entre Dutroux et Outreau, hein. Et où, d'une certaine manière, les bases sur lesquelles, depuis les années 70, depuis les contre-révolutions libertaires sur lesquelles on reposait, où c'était une sorte d'acquis. La liberté d'expression était un acquis. On ne pouvait pas imaginer une seconde que ce serait remis en question. On était encore, c'est une époque très foucaldienne, on lisait René Scherrer, on lisait Hockenheim, on lisait Tony Duvert.
Oui.
Voilà. Tout ça n'était pas sujet à le moindre doute. Donc, l'idée aussi que nous avions avec Marie-Laure, c'était de poser la question de cette binarité, c'est-à-dire de ce rapport binaire de l'enfant roi à l'enfant victime. Hein. C'était aussi ça. Et je pense que c'est ce qui, dans ce moment-là, dans ces circonstances-là, est devenu inacceptable, impossible, inaudible.
Mais au fond, ce qu'on entend, Jeanne Favre-Saada, dans le récit que vient de faire Stéphanie Moidon, c'est l'idée que derrière cette notion de sensibilité religieuse blessée, il y a la volonté de la part de ces dévots religieux, non seulement de tenter de faire prévaloir leurs croyances dans des sociétés qui sont de moins en moins croyantes, mais au fond de faire prévaloir des mœurs qui sont les leurs à un moment où elles sont en train de changer. Alors on peut pas s'empêcher de faire le lien avec les mouvements contre la loi Taubira, mais c'est exactement ce qui se passe aussi en Grande-Bretagne. C'est-à-dire, vous montrez bien Mary Whitehouse contre la télévision. Ce qu'elle ne supporte pas, c'est les années 60, la libération sexuelle qui va avec, etc. Et donc là, c'est ça qui se trouve être l'objet...
Parce que le christianisme dit être une religion universelle dans laquelle Dieu est censé avoir dit aux hommes, par le biais de la mort de Jésus, etc., de son grand plan, du salut de l'humanité, comment ces créatures, c'est-à-dire s'ils veulent conformer nos familles, notre sexualité, même si nous sommes des athées, c'est parce que pour eux, nous serons toujours des créatures de Dieu et que nous avons, que nous le voulions ou pas, à nous conformer à ce que Dieu a voulu pour nous et que leur Église déclare être ce que nous devons faire. Et c'est en ça que les religions, même quand c'est des associations non confessionnelles, etc., c'est en ça que les religions conservent une importance sociale et politique importante aujourd'hui.
Et donc on s'aperçoit que ce combat, cet agenda commun aux dévots, finalement, se traduit par ce qu'on peut appeler aujourd'hui des paniques morales, mais aussi des guerres culturelles, parce qu'il s'agit d'entretenir des rapports de force politique là où le droit ne leur suffit pas, parce que le droit ne peut pas les faire triompher. Alors on a vu récemment des intégristes orthodoxes mettre à feu un cinéma à Saint-Pétersbourg, il y a quelques jours de cela, mais on a vu depuis, concernant l'art contemporain, l'affaire à propos d'Andrés Serrano sur Peace Christ, son homme. On a vu des affaires qui concernent le spectacle vivant au Théâtre de la Ville également. Elles se multiplient et impliquent toutes les religions.
La pièce de Kippenberger à Bolzano, la grenouille crucifiée, qui est quand même un autoportrait de l'artiste, qui n'a pas beaucoup de rapport avec sa relation à la religion, en tout cas. Mais aussi la Nona Ora de Maurizio Cattelan. Ce qui était absolument insoupçonnable quand on ouvre Présumé innocent. Par ailleurs, c'est intéressant, il y a toujours aussi la question du contexte. Beaucoup des pièces qui donc sont incriminées dans l'exposition de Présumé innocent ont été montrées par la suite au Centre Pompidou sans aucune difficulté. Donc, tout dépend aussi du contexte.
Mais il suffit que les gens se saisissent de...
Oui, il y a aussi, pour comprendre un peu ce qui peut se passer à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a aussi la naissance d'un mouvement anti-intellectuel. Et ce milieu de l'art, nos professions qui sont peu légitimes, sont considérées comme faisant partie d'une élite, une élite très protégée, beaucoup trop protégée. Il y a aussi l'affaiblissement de la puissance d'État, d'une certaine manière, et des institutions. Dans notre cas, l'État interviendra très peu. Et l'institution interviendra très peu. C'est une nouvelle donne, hein, surtout en France, c'est quand même capital de comprendre ça.
Et puis il y a une chose, Jeanne Fabre-Sada, qui m'a frappé en vous lisant, qui est cette façon, au fond, dans ces guerres culturelles, pour ces dévots chrétiens, de récupérer une forme d'héritage du gramscisme et qui les a conduits à retourner le vocabulaire et les mots. En vous lisant, on se rend bien compte de ce que veut dire bien-pensant. Bien-pensant, ça renvoie aux catholiques intégristes. C'est comme ça qu'on utilise l'expression dans les années 60 quand il s'agit de Rivette, et un certain nombre de médias sont parvenus à faire en sorte que la notion même de bien-pensant se retourne totalement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par bien-pensant, des journaux comme Causeur, comme Marianne par exemple, voudraient désigner ceux qui sont des militants progressistes des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme serait bien-pensante, ce qui est incompréhensible en fait au regard du sens original de cette expression, Jeanne Fabre-Sada.
Vous avez raison, ceci dit, il ne faut pas penser que ces dévots du christianisme que je montre dans ce livre soient des intégristes. C'est aussi des intégristes, mais ce qui est très frappant, et c'est probablement la raison pour laquelle on oublie ces histoires dès qu'elles sont passées, ce sont n'importe lesquels de nos contemporains qui ont une foi, la foi chevillée au corps, qui sont éventuellement pour Vatican II. Il n'y a aucune incompatibilité entre ce qui a été dit à Vatican II et le fait de vouloir censurer des œuvres d'art, puisque Vatican II a refusé de prendre parti et sur l'autorité dans l'Église et sur les relations entre l'art, la morale et la religion. Donc les intégristes ont toujours raison quand ils disent « mais ça n'est pas les intégristes de Mgr Lefebvre », mais les autres aussi. Puisque ça n'a jamais, Vatican II n'a justement pas révoqué des thèses insoutenables que l'art devait être avant tout moral et religieux. Donc il continue à être dans le droit fil de la pensée conciliaire.
Et donc vous pensez que cette rhétorique est loin d'être épuisée et qu'on risque...
Bien sûr qu'elle est loin d'être épuisée.
Merci Jeanne Fabre-Sada, merci beaucoup également à Stéphanie Moidon. Je rappelle donc le titre de ce livre, Les sensibilités religieuses blessées, christianisme au pluriel, blasphème au pluriel et cinéma 1965-1988. Il paraît aux éditions Fayard, vous trouverez la référence bibliographique sur la page de la suite dans les idées sur le site de France Culture, une page sur laquelle vous pourrez réécouter l'émission Ad Vitam Aeternam et une page sur laquelle vous pourrez également vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau, attaché de production Catherine Denet, à la technique Valérie Lavalard, à la réalisation Anne-Laure Chanel. Et tout de suite sur France Culture, c'est Christine Bernard que vous retrouvez pour une histoire particulière, première partie de cette semaine.